With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Pour cet épisode de Programme B, je suis une nouvelle fois aux côtés de ma camarade Victor Toyon du podcast Les Couilles sur la Table. Salut Victor.
Salut Thomas.
Et ensemble, on va découvrir un document exceptionnel.
Oui, je voudrais, chères auditrices, chers auditeurs, que vous écoutiez le témoignage d'une jeune femme. Elle a 26 ans, elle s'appelle Loulou Robert, elle est écrivaine et elle a aussi été mannequin. Par ailleurs, c'est la fille du journaliste Denis Robert qui a révélé l'affaire Clearstream. Au mois de novembre, je l'ai entendue parler à la télévision. Et ce qu'elle a dit m'a bouleversée. C'était dans une enquête du magazine Stupéfiant sur France 2 sur la photographie de nu après MeToo. Il y est question d'un photographe de mode français, connu, David Belmer, qui dans un article publié en février 2018 aux États-Unis dans le journal The Boston Globe, a été accusé par plusieurs mannequins d'avoir abusé d'elle, de les avoir harcelés sexuellement. Sur France 2, Loulou Robert est interviewée. Elle raconte comment, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle commençait le mannequinat, elle a eu des relations sexuelles avec ce photographe et elle explique que ça lui a pris des années pour se rendre compte qu'elle n'y avait jamais consenti. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Parce que ce qu'elle a vécu pose, je crois, plein de questions très dérangeantes sur le déni, sur les rapports de pouvoir, sur la violence, sur les relations entre les hommes et les femmes et les stéréotypes de genre. Je suis donc allée chez elle, un matin de décembre, à Paris, dans son petit appartement plein de livres et de plantes. Elle a fait chauffer de l'eau. On s'est assise en tailleur sur son tapis. On a essayé de se vouvoyer, mais c'était pas du tout naturel vu qu'on a presque le même âge. Pendant que j'installais les micros, on a un peu parlé de littérature et des trois romans qu'elle a publiés, Bianca, Hope et Sujet inconnu. Elle nous a servi du thé et puis elle a commencé à raconter.
Alors, en fait, je suis arrivée à Paris quand j'avais 17 ans. Je venais de commencer le mannequinat. J'ai commencé le mannequinat assez tard par rapport aux filles qui commencent à 14 ans. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais une jeune fille, parce qu'on ne peut pas dire jeune femme, hein, 18 ans. Je sortais toujours tout juste de l'adolescence et d'une période assez compliquée de ma vie. J'avais beaucoup de problèmes avec mon corps, beaucoup de problèmes. Quand on lit mon premier roman, Bianca, on arrive à situer un peu la jeune fille que j'étais, c'est-à-dire très fragile. En même temps, je pense lucide sur le monde, mais... J'étais quand même assez fragile.
Moi, je l'ai lu, ton roman Bianca. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est anorexique, qui traverse une période d'anorexie.
C'est sur un mal-être, le mal-être de l'adolescence. Cette jeune fille souffre de ça, entre autres, de ce mal qui est l'anorexie, qui est pour moi le mal de vivre. Quoi. Donc j'avais 18 ans, j'étais à la fois cette petite fille et cette jeune fille. Parce qu'à 18 ans, on devient une jeune fille, une jeune femme.
T'avais quel rapport à ton corps et à la sexualité quand tu disais que c'était compliqué?
À la sexualité, j'en avais pas. C'est-à-dire, j'avais un amoureux, mais c'était. Donc j'étais très amoureuse, hein, mais qui était. Que j'avais rencontré à 12 ans, qui était. Voilà. Mais j'avais pas de rapport à mon corps, quoi. Il n'existait pas trop, quoi. Il n'existait pas. Ça s'arrêtait en dessous de mon cou. Et puis après, j'ai eu ce casting. Donc peu de temps. Je devais avoir. Je devais avoir commencé le mannequinat depuis 3-4 mois.
Ce casting, c'était un casting pour quel genre de photo?
Je savais pas exactement pourquoi c'était. On m'a dit que c'était un photographe important. C'était très bien que je le vois, qui prenait des belles photos. Et donc mon agence m'envoie ses cheveux photographes en me disant juste « fais gaffe, c'est un peu... Hein. » Il a un peu dilemme, il est un peu dragueur, quoi. Il est un peu... Bon, j'y vais. Toute seule et puis je...
Tu vas toute seule?
Ouais. Et donc je vais chez lui, même pas 30 secondes après que je suis arrivée, il me demande de me déshabiller et je m'arrête pas à la culotte vu qu'il me demande de l'enlever aussi. Et là il se rapproche de moi, il se met à genoux pour se mettre au niveau de mes hanches et de les toucher, visage face à mon sexe quoi. Et il touche mes hanches, il me dit ah c'est bien. Et il me dit, t'as des hanches, c'est bien. Puis là, il se relève, il me dit, ok, tu peux travailler. Et c'était un peu perturbant quand même, j'étais un peu toute seule. C'était la première fois que j'étais venue face à un homme. Et puis non, puis il avait... presque l'âge de mon père, quoi. Donc c'était... il avait, je sais pas, à l'époque j'avais 18, il devait en avoir plus de 40, quoi, un peu plus de 40, donc je sais pas. Mais bon, je m'en vais chez lui un peu bizarre, mais je me dis bon, ok, bon, c'est, voilà, c'est comme ça. Je rentre, du coup, enfin bref, le temps passe un peu et j'ai en fait le job. Donc mes agents sont super contents et c'est un job de nu. Ouais, je sais pas trop ce que ça, voilà, mais tellement tout le monde est tellement content parce que c'est mon premier, voilà, que c'est un super photographe, qu'il prend des belles photos, que c'est bien pour moi, que moi je me dis c'est bien, ok.
C'est ton premier job, ouais. C'est la première fois que t'es payée.
Je suis pas payée parce que pour les magazines on n'est pas payé. Donc, mais bon, ça va faire des belles photos pour mon book. C'est pas un test, ça va apparaître. C'est mon premier magazine.
Donc c'est la première fois qu'il y a des photos de toi qui sont imprimées, ouais, dans une publication.
C'est ça.
C'est ça un job.
Oui, c'est ça. Un job, c'est pas toujours quand t'es payé dans le mannequinat. Donc je suis contente. Un peu d'appréhension, je crois, quand même, parce que le casting, c'était un peu bizarre. Et puis, il y avait le mot nu. Mais je me dis que c'est pas grave. Donc voilà, en fait, comment ça se passe. On part en voiture. Je pars seule avec... je suis seule dans la voiture avec, en fait, un ami à lui. Parce qu'en fait, on part sans équipe. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de maquilleur, il n'y a pas de... Mes agents me laissent toute seule. Et on part, en fait, son ami, là, en question, à un château à Vichy. Le photographe leur avait demandé de prêter cet endroit pour le week-end et pour qu'on fasse des photos tous les deux. Et puis, dès le début, dans la voiture, il commence à être très, très amical avec moi. Il me met en confiance, il me fait des blagues, il est très sympa. Il me touche beaucoup, c'est très tactile.
Il me touche beaucoup.
Oui, il est très, c'est pas quelqu'un, il va me toucher la joue, il est tactile dans sa façon. Et puis il fait des blagues, il me raconte des choses assez intimes, tout de suite. Je suis en confiance. On passe ce trajet, c'est très simple, je me sens bien, tu vois, je me dis ah, c'est cool, il est sympa, ça va aller. Et donc on arrive dans cet endroit. Le château est vraiment grand et puis on est tous les deux, quoi, donc mais il y a un grand jardin, c'est hyper beau, il fait beau en plus. Très vite en fait on commence les photos. Il y a jamais de maquillage sur ces photos, c'est toujours, il m'a demandé de ramener quelques culottes et des collants, des choses comme ça. Il en avait ramené aussi lui des collants. On fait les premières photos dans les champs. Quand il prend les photos, en fait, il touche tout le temps mon corps. C'est-à-dire que comme si j'étais une poupée, en fait, il s'approche de toi, il t'écarte la jambe, il te baisse ta culotte, il t'écarte limite les lèvres pour que ça rende un autre effet. Il touche tout le temps. Donc ça, c'est un peu bizarre déjà. Je crois que c'est dans les premières photos, on se retrouve dans cette chambre tout en haut, qui est une chambre comme de petite fille, où il y a un lit, une place avec un lit bleu. Sur ce lit en culotte, qui me baisse ma culotte à nouveau pour les photos. Et là, il me regarde, il est. Je me sens un peu bizarre, voilà, je commence à être un peu. Je suis un peu gênée. Je sens que c'est pas. Après, je sais pas, vu qu'on m'a jamais regardée comme ça, c'est mes premières photos. Je sais pas. Je suis pas con quand même. Mais c'est bizarre, je sais pas. Je sais pas cool, je sais pas. Mais très vite, je vais savoir, vu qu'en fait, il vient se mettre sur le lit avec moi, il me dit que je suis belle, que voilà, que. Il me caresse les joues et il commence à me dire que lui ça va pas dans sa vie avec sa copine, qu'il a besoin d'affection, qu'il est malheureux. Et là il se met sur moi, quoi. Et puis là en fait c'est là où je me rappelle très bien, en fait c'est surtout, je me rappelle de la photo parce que j'ai toujours été mal à l'aise avec, je savais pas pourquoi, voilà, c'est peut-être parce que c'est là où ça a vraiment, le truc a été franchi. Et mon regard sur ce lit, quoi, où j'ai sur la photo, j'ai juste la tête relevée et je regarde et je me dis juste après, je sais que c'est là que ça a déconné. Alors je fais rien en fait. Je le laisse se mettre sur moi, me toucher, me dire toutes ces choses. Et moi, je peux rien faire en fait. Je suis complètement figée. C'est-à-dire que je me bloque, je me serre, je me... Savoir si c'est exactement à ce moment-là où il y a eu pénétration, si c'est la photo d'après ou celle d'après. Ou, juste que c'est cette photo-là où il est venu sur moi, où j'étais nue, où il m'a touché tout le corps et que le truc était franchi, quoi. Que j'étais dans le... Et après, pendant tout le week-end, en fait, c'est à chaque photo, chaque... Il y a soit pénétration, soit il me touche, soit... Il y a eu beaucoup de photos, quand même. On était tout le temps, il y a eu énormément de photos. Et la nuit, dans ma chambre aussi, il vient me... Enfin, c'est non-stop pendant un week-end, et moi, je fais strictement rien. À l'intérieur, je me sens sale. J'ai peur. Je sais pas... Je souris, pourtant, je suis aimable. Je suis pas... Comme si je jouais un rôle.
Mais sur le moment, quand il pose les mains sur toi, quand il pose sa bouche sur toi, quand il te pénètre...
C'est horrible, c'est douloureux, je le sais. En fait, je le sais, et en même temps, je le...
C'est douloureux ?
Ah oui, c'est douloureux, parce qu'en plus, c'est physiquement douloureux. C'est pas... C'est physiquement... En plus, il est très... Le truc qui m'a marqué, c'est qu'il est extrêmement grand. Et que tout est... C'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Et surtout quand ça arrive à répétition pendant tout un week-end, c'est je me souviens rentrer et avoir mal, être pas avoir mal à cet endroit, quoi.
T'as mal au sexe,
ouais.
Et quand il te fait mal, quand il y a cette douleur là, qu'est-ce que tu dis?
Rien. De toute façon, je ne dis rien, je me bloque en fait, je me fiche comme si j'étais une nuit quand on fait un cauchemar et qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre et que tu te mets et que tu fermes les yeux pour que ça passe, quoi.
Donc t'as les yeux fermés?
Ouais. Ça oui, je vois pas son visage quand... Puis je trouve ça sale, en fait. C'est surtout la sensation d'être sale. C'est sale. Et puis aussi, il y a ce truc de... Il était sympa avec moi. Je savais pas quoi faire. Je savais pas si c'était moi. Est-ce que c'était moi qui avait fait ça? Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que... J'ai rien fait, en fait.
Tu lui as rendu ses baisers, tu as... L'as touché?
Non. Après, j'ai laissé me toucher, donc est-ce que quelle est la... C'est toujours le même... J'ai laissé faire, quoi.
T'as dit quelque chose?
Non. Absolument, j'ai pas dit non une seule fois. Pourtant, à l'intérieur, c'était... j'avais juste peur, en fait. Je crois que c'était... J'avais juste peur. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix, en fait.
Et ça a lieu combien de fois dans le week-end, tu penses?
Beaucoup. Je sais pas, peut-être 10 fois, j'en sais rien. C'est en fonction des photos, surtout que j'arrive à... Je les regarde plus, hein, mais je sais qu'à chaque fois... Ouais, puis il y a des images, ta langue, des trucs qui aujourd'hui encore des images qui me bloquent dans ma vie, des choses que je peux pas faire, des choses qui me dégoûtent, quoi, en fait.
Il y a ses amis qui sont...
Ouais,
il y a ses amis. Qui sont là, entre les photos?
Non, jamais la journée, ils sont jamais là. Mais le soir, oui, puis les soirées sont plutôt sympas, en plus. Ils sont gentils, ses amis. Devant eux, il fait rien, mais dès que je vais aux toilettes, dès que je me lève, dès que... Bah, ça se reproduit.
Dès que tu vas aux toilettes, dès que tu te lèves...
Dès que je me lève, dès qu'il y a... Il y a toujours des gestes, des petits trucs cachés, des... Il vient dans ma chambre...
Ça dure donc 2 jours.
Ouais.
Est-ce que tu penses à partir?
Bah, comment?
Pourquoi tu pars pas?
Parce que je peux pas partir. Parce que personne. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Qu'est-ce que je vais dire? À qui je vais le dire? À mes parents? À mes agents? Il faudrait venir me chercher. Je suis loin de Paris. Je suis toute seule. Je suis toute seule avec lui. Il est grand. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai pas le choix, quoi. Et puis c'est mon premier job, en fait. J'ai peur de décevoir. J'ai peur d'être chiante, de passer pour, de tout gâcher, enfin d'être chiante, quoi, de tout gâcher, quoi, de faire quelque chose de mal, quoi.
Parce que t'es là pour travailler, c'est ton job.
Oui, c'est mon job, c'est mon premier en plus. J'ai aucune expérience, je sais pas, on me donne ma chance, parce que j'ai l'impression qu'il m'a donné ma chance. Et que tout ça, c'est une chance pour moi. Donc c'est bizarre ce que je ressens. J'ai l'impression que vraiment que je n'ai pas le droit de partir, je ne peux pas faire autrement. C'est un mauvais moment, c'est un mauvais truc à passer, quoi. Et je me convainc dans ma tête que c'est bien.
T'as ton permis à l'époque ?
Non. Non, j'ai pas mon permis.
Et c'est au milieu de la campagne ?
Ouais, à Vichy. Donc je sais pas où est Vichy. Il y a pas de, y a même pas de maison. Il y a assez des champs, parce que des photos, tu vois des champs. Il y a une belle piscine, il y a plein de chambres, c'est immense. Mais non, j'ai pas le fou. Si je veux partir, je dois appeler quelqu'un. Et qu'est-ce que je fais ? Et puis je vais me faire engueuler. Puis même, à l'époque, même c'est mes parents, ma mère, enfin tout le monde est content. Puis mes agents m'ont dit que c'était vachement bien pour moi. Et j'ai arrêté la fac, moi j'ai tout arrêté. Enfin voilà, c'est mon... Donc c'est ça aussi, j'avais peur d'être méchante, d'être passée pour une... J'avais peur d'être chiante, d'être nulle. Quand on est mannequin, c'est ça qui est compliqué de faire la... Surtout quand tu débutes ou quand tu taxes ça dans ta vie, ou que t'es fragile ou que je sais pas, mais... Le mannequin devient un peu ton identité, c'est-à-dire que tu fais pas la distinction, t'es pas une mauvaise mannequin, t'es presque une mauvaise personne. Donc est-ce que je manifeste du plaisir ? Non, ça c'est impossible que physiquement j'ai manifesté du plaisir. Non.
Mais tu souris, tu dis.
À table, avec quoi ? Ouais, dans ce moment-là, non, je souris pas. Je parle pas déjà. Il me parle, il me dit des choses, il me dit des trucs, ça je sais que sur mon corps, sur ma peau, sur mes cheveux, sur mes seins, sur... Non, il me pose pas de questions. Jamais d'ailleurs. À aucun moment il m'a demandé ça va. Non, mais s'il m'avait, je sais, parce que c'est. Même s'il m'avait demandé ça va, j'aurais pas répondu non. Je le sais. C'est ça qui est. Parce que j'aurais eu peur de répondre non. Donc c'est vraiment. Après coup, je me dis, mais c'est vraiment. C'est de ma faute, c'est moi qui ai. Parce que j'ai. Mais j'aurais répondu ça va avec des larmes dans les yeux, quoi. C'est un peu ça, le. Comme un bon petit soldat, quoi.
Tu pleures à un moment dans le week-end ?
Non, je pense pas, je pleure en rentrant. Je pleure même sans savoir pourquoi je pleure.
Donc ce week-end se termine.
Ouais, je rentre, il y a mon amoureux. Et j'ai ma mère au téléphone, je me rappelle, elle me demande alors, non. Et là, il y a un mélange chez moi de... Ma mère me demande, alors je suis un peu... Je dois être un peu... Je vois, bah, c'était génial. Voilà, je raconte des... Et je me dis, ah, c'était super. Puis je commence à me raconter cette histoire-là de c'est bien. Je fais sous-entendre qu'il y a eu que le photographe m'aimait bien. Et que c'est chouette, que c'est une expérience, que nanana. Et juste après, il y avait mon amoureux. Je dis tout à mon amoureux, toute la vérité, par contre. Là, je pleure. Puis après, je pleure sans raison. Je passe du temps dans la. Puis j'ai mal. C'est complètement.
Qu'est-ce que tu lui dis à ton amoureux ?
Que j'ai pas le choix. Que lui ne m'a jamais regardée comme une femme, que c'est ça être... Et que ça me fait du bien, et que c'est bien. Et en même temps, je pleure, et je suis... Voilà, et je suis... Et j'ai mal, oui. Et quelques jours après, quand il me réécrit aussi, j'y vais, je me pose pas... J'y vais comme un... Et pareil, c'est... La même histoire, je fais rien, pourtant j'y vais. J'arrive toujours pas à comprendre, à l'expliquer pourquoi j'y vais, quoi.
Il t'envoie des textos pour te demander quoi ?
Bah pour qu'on se voit. Ça arrive deux fois au moins, et puis après il m'a un job aussi, au Liban, une semaine à nouveau. Pareil, il paraît que c'est bien, donc j'y vais. Il vient dans ma chambre tous les soirs. Après il y a une équipe, plusieurs choses, deux magazines, trois magazines je crois. Il y a une équipe qui est là quand même. Donc la journée ça va.
Quand tu dis la journée ça va, tu veux dire quoi ?
Bah, il peut rien faire. À part me toucher sur le shooting et me. Il peut rien me faire, donc je suis en sécurité, quoi. J'ai pas peur là, j'ai pas. Mais le soir, je sais. Et.
Tu sais quoi ?
Bah, qui va venir ? J'en parle vaguement à mon agence à l'époque que. Et ils rigolent, ils disent que c'est. Ah, c'est... Je leur dis pas, pareil, j'arrive pas à dire les choses, j'ai peur de. J'ai peur d'avoir mal fait, quoi. J'ai peur d'avoir... J'ai peur, je sais pas, de... Encore... Tout le monde est content, en fait. Puis les photos sont belles.
Toute cette semaine au Liban, ouais. On vient dans ta chambre.
Ouais. Et ben, on a des... Ouais, des... Il a des rapports avec moi. Enfin, on a des...
Il a des rapports avec toi. Et donc, toujours pareil, tu dis rien.
Je dis rien, puis je souris la journée... Il est sympa avec moi. Et puis, il est très complice avec moi. Il fait comme... c'est moi sa préférée. pareil, une autre mannequin à qui c'est moi à qui parle le plus, c'est moi. J'ai l'impression, pas que je suis importante, mais que je sais pas, que j'ai une place.
Est-ce que l'équipe qui est là sur place au Liban est au courant?
Non, juste son assistant. Je pense qu'il a des pistes, mais pareil, c'est pas du tout la faute de l'assistant, devait trouver ça louche. Mais j'ai jamais montré, j'ai jamais dit quoi que ce soit. J'ai jamais été voir l'assistant en disant au secours, je vais pas bien. Non.
Quand tu dis qu'il devait trouver ça louche, pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il a pigé, je crois. Il a pigé parce qu'il a vu David me prendre la main dans la rue une fois, m'attraper ou des choses comme ça. Puis il devait connaître la personne avec qui il travaillait quand même.
Est-ce que t'étais est-ce que tu penses que tu avais des comportements tendres ou de désir ou de...
De désir, non. Après, de tendre, oui, j'étais très douce, très docile en plus. Alors ça, j'étais hyper... vraiment un petit soldat. J'étais très... être gentille. C'était aussi un truc qui a marqué aussi mon enfant. Ce truc, c'est ne pas être méchante. Dire non, c'est méchant. Genre un peu ce truc-là dans ma... Ce truc de... ça va, de sourire et de dire que ça va alors que ça va pas, mais de tout garder, de tout et de faire ce qu'on me demande vraiment. J'ai toujours fait ce qu'on me demandait, à l'école, avec mes parents, et moi, j'existais pas, moi je savais pas ce que je voulais. C'est vraiment ce truc de je savais pas du tout ce que je voulais là encore, à l'époque, quand tout ça m'est arrivé. C'était le même truc, j'étais docile, je savais ce que je ressentais, tout ça, la peur, la douleur, le dégoût, la saleté. C'est vraiment ce truc dans le ventre qui m'est resté très longtemps dans mes rapports après avec mes autres, ce truc de dégoût, je suis dégoûtante. Ça, c'est ce qu'on fait là, c'est dégoûtant. C'est resté après longtemps. Et ça, je le ressentais, mais il y avait toujours ce truc de je fais ce qu'on me demande, je suis docile. Je savais pas ce que je voulais. Voilà, c'était ce truc de j'étais éteinte, comme si... il y avait un truc d'éteint. Et donc, il y a ce truc au Liban. Je rentre. Et il me rappelle, je crois, une dernière fois. On se voit une fois dans le... je me rappelle Canal Saint-Martin. Il se fait tatouer le dos. Et il m'appelle pour me... Pareil, je vais le voir. Et puis, il me parle un peu. Il me dit que ce serait bien que je passe chez lui. Hein. J'y retourne une dernière fois chez lui. 2 jours après encore, je crois. Et là, c'est la dernière fois qu'on a eu un... Enfin, que je me suis retrouvée nue. Il m'a pénétrée à nouveau. J'ai eu cette fois très mal. C'était assez violent. Il a eu un geste, je me rappelle, il m'a tapé les fesses. Et ça m'a... Et je sais pas, il y a comme tout un truc qui m'a... Et en fait... pareil. Je me dis rien. Moi, je me dis rien. Mais là, il y a un truc qui se bloque, je pense, et je pars. Et après, je lui parle plus. Et après ça, c'est terminé. Je le revois plus. Je dis pas que je veux plus le voir, je dis absolument rien. Je laisse ce truc s'essouffler, quoi. Je sais plus comment ça se passe exactement. Tout ce que je sais, c'est que je me retrouve plus jamais chez lui, nue, avec lui. Et puis après, je me mets à écrire. En fait, j'arrête le... Dans le mannequinat, j'ai beaucoup morflé, hein. Si cette fois-là était la plus, on va dire, grave, et on va dire où il y a eu pénétration et douleur physique et d'autres abus, j'ai subi d'autres choses pas terribles non plus. Toujours un peu le même schéma. Mais toute cette histoire-là encore, elle n'existe pas pour moi.
Parce qu'à l'époque, comment tu décris, pendant toute cette période où il y a cette relation et ces rapports auxquels tu ne consens pas?
J'en parle très peu, hein. En fait, je suis pas claire, j'en parle pas, je suis gênée, je parle pas de ça, mais...
Qu'est-ce que tu te racontes?
C'est plus aux autres, mais en se le racontant aux autres qu'on se raconte à soi, quoi, mais je sais pas comment... Parce que moi, toute seule, je pense pas à ça, j'y pense
pas.
Tu
penses pas?
Non, je pense pas, consciemment, vraiment, c'est mort, quoi. Y a rien, c'est bizarre. C'est un point, c'est trouble, en fait, c'est un truc un peu... Et quand j'en parle, j'en parle très peu, mais ouais, j'ai eu une histoire avec David. Ouais, il y a une histoire, quoi. Il y a quelque chose. Ouais, j'ai été une. Toute cette sensation d'avoir été, même ces photos, premier truc de femme, quoi.
Tu dis, c'est ça être une femme?
Ouais, ah bah à l'époque complètement, oui. Ça, c'était, pour moi, c'était ça être une femme. Même les photos, tout, c'était la, le rapport au corps, c'était ça être une. Et ça, la façon dont il me touchait et tout, je pensais que c'était comme ça qu'on. Moi, l'écriture m'a vachement aidée à mettre des mots sur des choses que je n'avais absolument pas conscience. Tout ce que je pouvais dire, c'est que je me sentais mal, je me sentais sale, que je faisais des cauchemars. C'était comme si c'était tout boueux, tout dégoûtant, tout, à cet endroit-là, ça me dégoûtait. Et puis ça faisait mal. Enfin voilà, qu'en fait, quand tu. Physiquement, en fait, quand du coup, quand tu veux pas et que t'as. Ben, ça fait mal. Du coup, c'est. Donc, c'était pour moi, c'était. Voilà, c'était que ça. Enfin, c'est marrant le cerveau, comme quoi il y a des. Ça met du temps, quoi. Et vraiment, c'est l'étape qui m'a commencé à me faire. Ma première prise de conscience, c'était mon deuxième roman, Hope, dans lequel mon héroïne Bianca, en étant à New York, est abusée par un photographe. Sauf qu'elle, elle lui fracasse le crâne et qu'elle s'en va. Mais la description physique de ce photographe, il est très grand, il a des tatouages, il a les yeux noirs. C'est ma mère qui m'a dit, mais c'est bizarre, il ressemble. Et j'étais là, non. Et c'est vrai que le thème du viol revient assez souvent dans mes deux derniers. Peu de temps après la sortie de Hope, j'ai un shooting par ma nouvelle agence, qui cela dit, est en passant, ouais, une bonne agence, parce que mon ancienne agence qui m'a absolument pas épaulée et qui m'a justement envoyée dans tous ces endroits qui étaient, à mon avis, au courant, a fermé. Donc, ça m'étonne pas. Donc, je suis dans une agence et j'ai pas eu de shooting depuis des années, quoi. Et en fait, j'ai une campagne pour Etam avec ce photographe. Donc, personne n'est au courant. Mes agents ne sont absolument pas au courant et je dis rien. Et c'est très bien payé. Et là, à l'époque encore, je suis mal à l'aise. C'est pas clair encore. Mais par contre, je me sens plus forte. J'ai pas envie qu'il le voie. J'ai pas envie. Mais bon, j'y vais. Donc, j'avais pas vu depuis bien longtemps. Il y a énormément de monde sur la côte dans ce genre de. C'est ça qui est rassurant aussi, c'est les équipes sont très nombreuses. Mais même là, je me sens assez costaud pour. J'ai pas peur. Je suis mal à l'aise, mais j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Je sais que moi, je vais pas me laisser faire. Donc, il est. Mais pareil, je suis quand même gentille. Hein. Je suis pas méchante avec lui. Je suis pas. Et c'est fou, là, je me rends compte en disant les mots gentil, méchant reviennent souvent dans mon vocabulaire. Mais. Donc il essaye à nouveau, tactile, dès que les gens s'en vont, il essaye de me toucher. Et je suis, voilà, je suis... Bref, je m'éloigne. La journée passe, le shooting passe, je rentre chez moi, il ne s'est rien passé. Bon, ok, voilà. Je suis payée, encore du temps passe, un an.
Et Bianca est déjà sortie.
Ouais, Bianca est sortie.
Et à l'époque, il y a un portrait de toi dans le magazine Elle.
Ouais.
Et dans cet article-là, il l'appelle lui. Il lui demande ce qu'il pense de toi. Et il dit que tu es fine, délicate, cultivée. Mmh. Et toi, tu dis de lui, le regard de David m'a aidée à regarder et à accepter ses formes de femme.
Mmh. C'est marrant. Ouais. Bah ouais. Voilà le genre de truc que je me suis dit. J'ai l'impression qu'il m'avait aidée à être une femme. C'est quand même hyper bizarre. En tout cas, c'est juste, c'est pendant l'écriture de mon troisième roman, donc Sujet inconnu, que je rentre un soir chez moi et j'allume la télé. Et là, je tombe sur une scène d'un film, l'adaptation d'un film d'un livre de Flavie Flamand, là, je sais, sur son viol avec David Hamilton. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ça s'appelle La Consolation.
Voilà.
Flavie Flamand, elle raconte dans son livre. Comment David Hamilton, qui était un photographe très célèbre,
ouais.
Qui photographiait des enfants et des enfants. Adolescentes, très jeunes adolescentes, nues, comment ouais. Ce photographe l'a violée.
C'est ça. Et d'ailleurs, ils prennent David Balmer, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais dans son travail, il est vachement comparé à David Hamilton. Au niveau du grain des photos, la nature, la manière dont il photographie les femmes. Il a toujours été comparé à David Hamilton. Bon, bref, moi, à l'époque, je ne savais pas trop qui était David Hamilton, en plus. Bon, là, quand j'ai vu j'étais au courant quand même de l'histoire, tout ça, mais je tombe sur ce truc et direct, en fait, je tombe sur une scène où on voit le photographe, donc l'acteur, qui soulève la jupe de la petite fille, qui doit avoir 13 ans, j'en sais rien, et qui lui écarte les jambes au niveau de son sexe, qui relève, juste ça. Il la positionne, il lui écarte. Et là, en fait, ça me rend malade. Physiquement malade, genre je vais vomir aux toilettes. Et je vomis, et je me mets à trembler. Et là, je commence à pleurer. Mais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça passe déjà par les... C'est physique, en fait. C'est vraiment que physique, là. C'est... Et ce soir-là, mon père rentre tard, il avait une émission de télé. Et c'est là où il rentre chez moi, et que je suis sous un plaid, en train de... Et que là, je lui raconte dans mes mots, aussi clairement que je le peux, mais ce qui s'est passé, en fait. Que je voulais pas, j'arrêtais pas de dire, je voulais pas. Et...
Qu'est-ce que tu lui dis à ton père ?
Il faudra lui demander exactement, mais que je voulais pas. Je raconte ce qui s'est passé ce week-end, moins clairement que je le fais là, puisque là, il y a encore un an qui est passé, une année. Mais que voilà, que j'ai eu mal, que je voulais pas, que j'avais peur, que je suis désolée. Que je suis désolée. C'est très physique, en fait. C'est surtout mon corps qui a réagi. Et tremble, j'avais très froid. Et j'avais très mal au ventre. Et de suite à ça, j'ai passé au moins 3 mois dans le noir. C'est-à-dire à... C'est fou, mais j'arrêtais pas de pleurer. C'était impossible de me toucher, c'était impossible... Et j'arrivais pas clairement à me dire... Je savais que ça, pour le coup, là, c'était très clair que c'était ça. Je savais.
Savais quoi ?
Ah, que c'était David. C'était le photographe qui... C'était Elias qui m'était arrivé. Je le savais, que la manière dont ce que j'ai vu, la scène, c'est exactement... Ça m'a fait comme quand il me touchait, en fait. De voir ça, d'extérieur, ça m'a fait un effet très violent, en fait. Et j'ai ressenti à nouveau. Je me suis sentie extrêmement sale et extrêmement triste, en fait. J'étais très... Et ça a mis du temps. Et après, il y a tout ce truc de culpabilité. Parce que j'ai pas dit non. Et après, en plus, j'ai menti. J'ai l'impression que j'ai menti à tout le monde. Puis la peur qu'on me croit pas.
Comment ça que t'avais menti à tout le monde ?
Bah, j'ai pas dit la vérité. J'ai pas dit ce que je voulais. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'avais une histoire. Je l'ai dit à moi aussi. Je comprenais pas. Ça m'a rendu... Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Comment expliquer que j'ai pu retourner le voir ? Comment expliquer que j'ai mis 5 ans à... Et que là, d'un coup... Je tombe et que j'ai écrit Hope, en plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'était là, tout ça. Que mon dernier livre, il y a aussi une scène de viol, que mon prochain qui sort. C'est quand même un truc qui. Et que là, je vois ce truc et là, je ressens tout. C'est dans mon corps, c'était physique. Et puis là, je me mets à faire beaucoup de cauchemars, à rêver de lui, à rêver que des hommes rentrent chez moi et me violent, à rêver. Ça commence à. Donc, je vais voir un psy, je commence à être suivie, j'entame un truc parce que j'arrivais pas à m'en sortir de ce truc. J'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et en même temps, je me sentais tellement con. Parce que je me disais, mais c'est tellement cliché tout ce que je ressens. C'est tellement. À force d'y penser, j'arrive même plus à penser. Je ressentais juste, c'était juste, je me sentais mal.
Pourquoi tu disais c'est tellement cliché tout ce que je ressens ?
Bah, parce que quand on voit quand on lit les trucs sur des viols, sur la culpabilité, le truc, d'y retourner. Enfin, voilà, tout ça, c'est des trucs que je sais. Que moi, mais mon corps, pourquoi je l'ai pas dit avant, enfin pourquoi maintenant, quoi.
Donc tu te sentais coupable ?
Vachement, ouais.
Tu te sentais coupable de quoi ?
C'était clair ce qu'il a, et après je me disais, mais en fait c'est peut-être moi, j'étais quand même lancé le truc, tu vois, je me disais, mais est-ce que je l'ai pas cherché ? Enfin, c'est culpabilité dans ce sens-là aussi, est-ce que c'est pas de ma faute ? Tout ça, c'est de ma faute, c'est moi qui... Et après, de pas avoir parlé, de pas avoir dit non, de pas avoir demandé de l'aide, de pas m'être débattue, en fait. Et puis, j'en parle même à une époque, à une copine à moi qui ne comprend pas, qui me dit, mais t'as pas dit non.
Donc, en fait, ta première prise de conscience, elle est, si je comprends ce que tu as dit, elle est au moment de ce téléfilm.
Ouais, vraiment, c'est ma... Après, il y avait l'inconscient qui s'exprimait, qu'il y avait qui avait des cris, quoi, des cris de l'inconscient dans mes livres, dans mes comportements aussi, physiques. De blocage, de trucs, de
comme tout. Quoi par exemple?
Bah, dans mes rapports intimes, des trucs que je pouvais pas, supporter pas, que des gestes, des trucs qui n'allaient pas, quoi. Puis simplement l'acte sexuel, quoi, en lui-même, quoi. Pour moi, c'était sale, tout était sale. Tout ça, c'est bon, c'est voilà. Mes livres, mes trucs, bon.
On est à l'époque, on est en plein début de mouvement MeToo.
Je sais. Pourtant, j'ai pas fait exprès. Mais. Ouais, puis j'en parle pas, moi. En plus, à l'époque, j'en parle. La seule chose que j'ai fait, c'est... Bon, j'en parle à mes... Passons, mes parents, tout le monde l'a vu. J'étais dans un état, je me suis enfermée. J'ai pas mon amoureux, mon meilleur ami, mes parents étaient au courant. Et quelques mois après, je vais prévenir mes agents qu'il faut pas que les filles travaillent avec ce photographe, quoi. Que les mineurs... que voilà, que je leur raconte ce qui m'est arrivé, en fait.
Tes anciens agents ?
Ouais, mes nouveaux.
Tes nouveaux agents ?
Ouais. Qui ont fait ce qu'il fallait pour protéger les filles, qui sont... qui protège les filles déjà et qui m'ont remercié, qui m'ont vachement soutenue dans tout ça, quoi, parce que c'est pour ça que je suis avec eux, c'est que les premiers disent que c'est le rôle d'un agent de protéger les filles et de leur dire qu'elles peuvent dire non. C'est vraiment le truc, parce que les filles ont l'impression que si elles parlent, elles vont être toujours ce mot de blacklistées. D'être blacklistées, qu'elles vont pas travailler, que c'est mal, qu'elles sont, c'est eux qui sont, de toute façon, on est toujours en faute, c'est toujours nous les fautives. Il y a vraiment un rapport, pour le coup, dans ce milieu-là de domination. Et elles peuvent pas parler. C'est vraiment le truc de, et c'est assez fréquent, ça, la sensation, l'impression de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire non.
À l'époque, quand tu prends conscience de ça, comment tu nommes ce qu'il t'est arrivé?
J'arrive pas encore à dire le mot viol. Ça a mis un peu plus de temps. J'arrive à dire que je voulais pas, que j'ai eu mal. Il est au bout de mes lèvres, toujours, le mot. J'arrive pas à le formuler. J'arrive absolument pas, je me dis non. Et encore maintenant, là, on est toutes les deux, j'arrive à... Mais pour moi, non, c'est pas ça, j'arrive pas.
Hein. À l'époque, donc il y a un an, donc 5 ans après les faits,
oui.
T'arrives pas à nommer?
Non, absolument pas, non. Par contre, je raconte ce qui m'est arrivé. Même si les... Quand j'en parle à quelques voix, là, quelques qui me disent « Non, mais Loulou, c'est... » Non, c'est ça.
Et maintenant, aujourd'hui, 6 ans après, qu'est-ce qui a changé?
On va dire que ma raison a rejoint le corps. Hein, il y a une espèce d'unisson entre les deux, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait un décalage, il y a toujours eu un décalage entre les deux. Même quand ça m'arrivait. Il y a toujours eu un... Et là, les deux vont plutôt ensemble. Donc c'est ça qui a changé, je crois. Il y a encore un an, c'était le corps se réveillait. Et c'était tout... tout douloureux, tout noir, tout... Il y avait beaucoup de pleurs, en fait. Les pensées n'étaient pas très claires. C'était pas... Alors que maintenant, j'arrive à avoir une chronologie, j'arrive à me dire, j'arrive à me resituer moi à ce moment-là et pourquoi. Et j'arrive à me dire aussi, il y a eu aussi le fait qu'il ait été accusé, lui, dans le Boston Globe, normalement, et que je me sens pas toute seule. C'est-à-dire qu'il a... J'ai la certitude que je suis pas la seule. Je le sais, ça. Et je suis assez en colère de voir... C'est aussi ça qui a changé, c'est que... Je suis plutôt en colère. J'ai envie que... Putain, j'ai envie que ça change. Je dis pas que ce milieu est pourri. Jusqu'à... Parce que dans ce cas, quasiment tous les milieux sont pourris. Dès qu'il y a un rapport de domination d'homme et femme... Entre un homme et une femme, je suis désolée, oui. Un homme et une femme, je perds du temps quand même. Et ben, ça se produit. Après, ce qu'il y a de dangereux dans ce milieu-là, c'est que les filles sont pour la plupart mineures, qu'elles sont seules, qu'elles parlent pas la langue, qu'elles ont pas une thune, qu'elles sont bercées d'illusions, qu'elles sont pas sous... Enfin voilà, c'est un milieu où il y a comme tous les critères sont tous regroupés pour que ça arrive et pour que ça se passe mal ensuite. Et pas qu'avec les photographes. Ça arrive avec des directeurs artistiques, avec des agents. Ça arrive avec ça. C'est ça, c'est le problème. C'est que les filles sont vraiment dans la position de faiblesse, comme une position de... Pour la plupart, hein, parce que toutes les filles ne sont pas des grandes top modèles, des femmes fortes. Et non, c'est la plupart des jeunes filles qui viennent de loin et qui ont besoin de bosser, quoi.
Et qui ont veulent ça. Être gentilles.
Ouais. Qui veulent bien faire.
Et qui veulent bien faire.
Ouais. Qui veulent être pro aussi. Mais est-ce que c'est ça? Voilà. Il y a toujours la limite entre le professionnel et ça, ils le savent très bien. Aujourd'hui, je me dis pourquoi il a été si sympa avec moi dès le début. Pourquoi il a été... C'est pour moi, j'appelle ça des prédateurs parce qu'ils ont une tactique pour nous mettre en confiance, pour nous faire croire que c'est normal. On va boire un verre, mais il se passe rien la première fois. Et après un, puis où est la limite du moment où toi tu sais pas quand tu débutes, quand parce que c'est tellement. Puis il y a des quand tu pars en voyage avec des équipes que tu dînes avec les gens forcément, tu vas boire des coups et c'est très mélangé tout ça. Donc tu te dis quand la personne commence à... Où est la limite? Toi, tu sais pas, en fait. Tu as du mal à piger tout ça.
Parce que personne t'a dit où était la limite.
La personne, non.
Et elle est où, la limite?
Que la personne soit sympa avec toi. Très bien, ça, heureusement qu'il y ait du respect, mais la personne ne doit pas te toucher. Déjà, pour moi, la limite, elle est là. La personne ne doit pas te toucher. Si tu veux que tu bouges quelque chose, déjà, moi, je trouve qu'on doit te demander... Tu peux bouger toute seule, on est grande fille. Mais on ne doit pas venir te toucher sans te demander ton autorisation. Déjà, c'est la première limite. Évidemment qu'on ne doit pas se donner à la porte de ta chambre le soir, ça, évidemment. Évidemment, enfin, c'est toute la limite, mais déjà, elle est... la limite, c'est eux qui doivent se la mettre, quoi. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est ça que je veux inverser. C'est pas nous, les filles, qui allons être blacklistées, c'est eux. Donc les limites, ils vont se les mettre. Ça, c'est ne pas... évidemment, ne pas la pénétrer, mais ça, c'est, la, ça va, c'est encore bien plus loin, mais c'est ne pas la toucher, quoi. Simplement, ne pas la toucher. Ne pas la mettre dans des situations où elle ne peut pas dire non, ou l'emmener à cet endroit-là où elle se trouve seule, ou un dîner, où finalement, il y a une équipe, mais tu te retrouves seule avec lui, tu ne sais pas quoi faire. Et puis finalement, qu'il n'y ait pas d'intimité, quoi. C'est du travail, c'est juste ça, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Est-ce que maintenant, ça, par rapport à ta...
tout ça, bah...
Est-ce que tu sais de ton désir, bah, du consentement, déjà, de ta capacité à l'exprimer ?
Je sais que déjà dans ma vie de tous les jours, déjà, un mec ne peut pas me toucher. C'est hors de question. Même dans mes rapports, dans mon travail, c'est vraiment, je suis beaucoup plus... Je suis assez froide... Après, quand je suis en confiance, je suis bien dit, je suis différente. Hein. Tous les mecs sont pas... Non, je suis pas du tout à dire ça, mais on va dire que...
À dire...
À dire que les mecs sont des connards, des pervers et qui vont tous nous violer. Non, je suis pas du tout là-dedans, vraiment. Et maintenant, clairement, je suis froide. Je suis plus sympa, je suis plus gentille, en fait. Maintenant, je peux être méchante. C'est ça que j'arrive, je peux être méchante. Et après...
Est-ce que dire ce que tu veux pas ou ce que tu veux, c'est être méchante ?
Non, mais je peux être frontalement, genre je peux être agressive, on va dire, voilà, plutôt que méchante. C'est pas méchante, parce que non, être méchante, c'est pas ça. Mais c'est toujours la petite fille qui les mots gentils, méchants, voilà, c'est toujours les trucs, mécanismes. Non, c'est pas être méchante du tout, c'est simplement être forte, quoi, et être... même pas être forte, parce que à l'époque, j'ai été forte comme je pouvais l'être, quoi, mais dire à voix haute, quoi, s'écouter et savoir qui on est. Enfin, il y a un truc vraiment, et maintenant, je sais que je peux, que j'ai le droit... Que ça se passe pas comme ça, que c'est pas normal. Et puis maintenant je parle, j'arrive à formuler, à verbaliser, à parler de sexualité. Je pouvais pas parler, c'était impossible de parler de ça. Et je culpabilise pas de dire non, maintenant. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie, voilà. Ils ont conscience de tout, ils sont pas cons. Je veux dire, ils savent très bien qui ils ont en face d'eux, c'est ça qui est assez...
Et ce qu'ils ont en face d'eux, c'est qui ? C'est des filles qui
ne peuvent pas dire non, tout simplement. Déconsentir, je sais pas comment, qu'ils peuvent pas
refuser.
Et ils le savent très bien. Et tout est calculé pour que ça arrive. C'est ça qui est...
C'est-à-dire ?
Dans mon cas, tout a été fait pour que ça arrive. La situation était telle que moi, j'étais vraiment... tu vois, c'était... Tout était fait pour que ça arrive et que je ne puisse pas partir. Dire non, me barrer, enfin tout.
Et tu penses qu'ils le savaient très bien ?
Oui.
Qu'il en avait pleinement conscience.
Et que maintenant, ils disent tous, hein, oh non, on ne savait pas. Oh mais non, elle n'a pas dit non. Mais non, c'est sympa. Ah mais ça doit être mon côté un peu latin, tactile.
Séducteur.
Lui, il faut toujours de ça dans les photos, du désir, rapport homme-femme, c'est ça. Mon cul, ouais. Non. 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 Voilà.
À ce jour, Loulou Robert n'a pas porté plainte. Il n'y a à ma connaissance aucune procédure judiciaire en cours contre David Belmer, ni en France, ni aux États-Unis. Dans le reportage de l'émission Stupéfiant, diffusé le 20 novembre 2018 sur France 2, le photographe explique au micro de Gabriel Garcia, le journaliste, qu'avec les mannequins, il pense n'avoir jamais été, je le cite, « lourd », mais plutôt séducteur, sans jamais manquer de politesse, de courtoisie, de délicatesse. Et il ajoute « le mouvement MeToo, c'est très très bien ». Il y a des gens, des monstres, des prédateurs, et ils savent très bien qui ils sont, et ils sont très très conscients de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne fais pas partie de cette race-là. Gabriel Garcia lui pose encore une question. Il lui demande s'il a eu un jour le sentiment de forcer le consentement de qui que ce soit. David Belmer répond « Non, non, ça n'est jamais arrivé. » J'avais besoin d'en savoir plus. Je tenais à lui donner la parole pour qu'il raconte sa version des faits. Donc 5 jours après avoir enregistré Loulou Robert, et 3 jours avant de diffuser son témoignage, j'ai appelé Maître Morin, l'avocat de David Belmer, en lui expliquant que je souhaitais interviewer son client. Le lendemain matin, à 10h, j'ai reçu sa réponse, par courriel. Je vais vous la lire en intégralité. Madame, je suis le conseil de Monsieur David Belmer qui ne pourra se rendre disponible dans le délai aussi court que vous lui enjoignez. Mon client a découvert récemment avec stupeur les propos et les accusations de Madame Loulou Robert, dont ni lui ni la justice n'ont été informés. Madame Loulou Robert, qui le met en cause dans des propos calomnieux, alors qu'elle est en pleine promotion de son dernier livre, est une jeune femme avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse en 2011, alors qu'elle, comme lui, était engagée par ailleurs. Cette relation profondément sincère et complice s'est poursuivie par la suite dans le cadre d'une relation amicale tout aussi sincère. Plusieurs témoins, dont l'agent de mon client, peuvent en attester. Mon client ne s'explique pas ses accusations mensongères, sauf à considérer que cette personne, pour laquelle il nourrit toujours un profond attachement, souhaite définitivement tourner la page de sa vie de mannequin en la salissant maintenant qu'elle a entamé une nouvelle carrière d'écrivain. En 2016, d'ailleurs, elle déclarait dans le magazine Elle, lors de la promotion de son premier roman, « Le regard de David m'a aidé à regarder et à accepter ses formes de femme ». Monsieur David Belmer s'inscrit en faux contre de telles accusations et usera de toutes les voies de droit contre l'atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation. On ne peut continuer à instruire par voie de presse pour des raisons mercantiles tout en refusant de prendre le risque de saisir la justice lorsque l'on porte de telles accusations. Par ailleurs, toute utilisation, publication et diffusion des photographies et œuvres de mon client sont protégées par le droit d'auteur et à ce titre interdites sans autorisation. Conformément aux obligations découlant de la loi du 29 juillet 1881 sur le respect du principe de l'enquête sérieuse et contradictoire, je vous demande de bien vouloir faire état du présent message dans son intégralité si vous décidiez de maintenir la diffusion de votre reportage. Je suis à la disposition de votre conseil habituel pour m'en entretenir. Salutations distinguées, Éric Morin, avocat associé. Et maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, comment ça va ? Je me demande ce qu'a provoqué chez vous l'écoute de cette histoire. À quoi songez-vous ? Qu'est-ce qui vous étonne ? Est-ce que vous vous êtes reconnu ? Si vous êtes d'une manière ou d'une autre touché, ému, interpellé par ce que vous venez d'entendre, alors s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, en ligne ou dans la vraie vie, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille, à vos amours, pour que d'autres à leur tour écoutent ce témoignage. Vous pouvez nous écrire à programmeb@binge.audio. Je remercie Loulou Robert pour sa confiance. Merci à Gabriel Garcia, journaliste chez Bangumi Productions, pour son aide et ses conseils. Il faut voir son enquête sur la photographie de Nu après MeToo. Elle est disponible sur YouTube. Je vais vous mettre le lien dans l'article. Merci enfin à toute l'équipe de Binge Audio qui a produit ce documentaire, Théo Boulanger qui l'a réalisé, Quentin Bresson qui a pris le son, Thomas Rozek qui présente Programme B et David Carzon, le directeur de la rédaction. À bientôt.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.